VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. RDC, une commission mixte d'experts congolais et rwandais s'attelle actuellement à redéfinir les frontières de 1911 entre les deux pays, d'où la décision des autorités congolaises de démolir les constructions illégales dans la zone neutre séparant la ville de Goma en RDC de celle de Gisenyi au Rwanda. Côté congolais, les pioches et les bulldozers sont déjà en train de raser les habitations concernées. Le reportage de notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka.
Nous sommes sur un sentier, c'est ce qui restait de la zone neutre censée mesurer en tout 12 mètres. Au moins 200 ménages seront frappés par la mesure. Déjà, certaines maisons construites anarchiquement dans la zone sont par terre. C'est un grand bulldozer qui fait le travail sans pitié. Au milieu des pleurs et des grognements des habitants du quartier Birere, le long de la frontière rwando-congolaise, dont certains y vivent depuis plus de 30 ans maintenant. Ces familles passent la nuit à la belle étoile et ne savent plus à quel sein se vouer.
En fait, nous sommes derrière la petite barrière.
Bon, moi je suis derrière.
Non, donc ma parcelle commence par ici. Maintenant, quand on est en train de nous démolir comme ça, sans rien nous indemniser, vraiment ce n'est pas normal. Ça, c'est la violence des domiciles quand même.
Moi, je suis un habitant d'ici parce que mon père existe ici et même avant 1960. Bon, tous nos objets sont en cours de route et donc nous ne voyons pas l'endroit où nous pouvons même les déposer. Oui, toute la terre appartient à l'État, mais même si ça appartient à l'État, quand même l'État doit faire quelque chose pour sa population. Beaucoup d'enfants sont ici, sont en train de dormir à l'extérieur, pas même de la nourriture, tout ça.
Roger Rachid Itumbula, l'un des experts de la RDC dans cette commission mixte rwando-congolaise, chargée de redéfinir la frontière tracée depuis 1911. Pour lui, il est temps de restaurer l'ordre sur cette frontière.
Bon, l'objectif, c'est reconstituer les bornes frontières entre le Congo et le Rwanda, identifiées depuis 1911. Donc nous, on n'a rien inventé, parce que sur les 22 bornes identifiées, on a déjà construit 14. Il restait les 8 bornes où la population était en train d'occuper l'espace neutre qu'on vient de dégager. La limite n'est pas rectiligne. Je crois que les gens qui ont construit sur l'espace de la zone neutre, ils étaient conscients. Quand quelqu'un construit, met la borne dans sa chambre à coucher, tu crois qu'il ne sait pas qu'il y a une borne là-bas? Mais il dit, l'État n'existe pas. Alors un matin, l'État doit se réveiller.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, notable de la province de Nord Kivu et qui suit de près ce dossier, pour lui, la démolition ne devrait pas précéder l'indemnité.
Je ne peux pas comprendre que le service de l'urbanisme arrive par exemple à autoriser à quelqu'un de bâtir et que même l'État perçoive des impôts fonciers sur une parcelle. Lorsqu'il s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, il y a une procédure à suivre. C'est que d'abord, il faut contacter l'intéressé. Après l'évaluation, la prochaine étape, c'est l'indemnisation. L'indemnisation doit précéder la démolition ou l'acquisition.
Mais c'est Rachid Itumbula de la commission mixte indique tout de même qu'une aide sociale d'une somme de 100 dollars américains sera donnée aux familles des guerriers par les autorités congolaises. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
Kenya, les autorités annoncent avoir mis la main sur 3 hommes munis d'une bombe artisanale. Ces suspects ont été arrêtés dans le quartier Kasarani où est situé le Garden City Mall de Nairobi. Eddie Isango.
Les 3 hommes ont été pris avec un engin explosif improvisé détecté à un point de contrôle, affirment les autorités kenyanes. Les suspects ont été arrêtés près du Garden City Mall, considéré comme le plus grand centre commercial d'Afrique de l'Est qui a ouvert cette année. La sécurité est renforcée dans les quartiers commerciaux au Kenya depuis l'attaque en septembre 2013 du centre commercial Westgate de Nairobi. Les islamistes somaliens Shebab s'étaient emparés de ces centres pendant 4 jours et avaient tué 67 personnes.
La guerre contre Boko Haram au Nigeria, l'armée nigériane a interdit l'usage des chevaux dans l'état de Borno pour tenter de mettre fin aux attaques de la secte islamiste. Le point avec Dili Diko.
L'interdiction de l'usage des chevaux dans l'état de Borno a été annoncée par le colonel Tukur Gusao, porte-parole de l'armée, après des discussions avec le gouvernement et un conseil de chefs traditionnel. Cette décision fait suite à des attaques de combattants présumés de Boko Haram à la fin août dans 3 villages du nord-est. Des hommes à cheval ont tué au moins 80 personnes et quelques jours plus tard, des dizaines de personnes ont été tuées dans une attaque similaire. Le porte-parole militaire a d'autre part précisé que l'avancée de l'armée dans la région avait bouleversé l'organisation des islamistes en coupant leur voie de ravitaillement, y compris en carburant. Selon lui, les terroristes ont alors été obligés d'abandonner leurs véhicules et d'utiliser des chevaux pour mener leurs attaques.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, le gouvernement a procédé cette année à 102 concours pour l'équivalent de 9 773 postes dans la fonction publique. Il y a eu plus de 655 000 postulants. C'est dans l'attente des résultats que des fraudes ont été découvertes. Le gouvernement affirme en avoir circonscrit l'ampleur, mais un comité de jeunes unis pour l'annulation et la reprise des concours a fait un sit-in ce mardi avec le soutien des organisations de la société civile. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Kassim Traoré.
Non, non et non.
Non, non et non.
Non, non et non.
En avant.
En avant.
En avant.
En avant.
La reprise sans condition de concours et cas de...
La fine pluie qui a arrosé Ouagadougou ce mardi n'a pas eu raison de la détermination du comité des Jeunes Unis pour la reprise des concours entachés de fraude. Ils se sont mobilisés devant le ministère de la fonction publique pour délivrer leur message qu'on écoute avec leur porte-parole, Moussa Herman Konkoubou.
Exiger l'annulation et la reprise des concours concernés par les cas de fraude. Exiger le démantèlement de ce réseau mafieux de fraudeurs. Ensuite, exiger que les autorités trouvent des mots d'évaluation qui correspondent au profil des candidats. Quatrièmement, que le cabinet épinglé par ces cas de fraude-là paye le préjudice causé à l'État et qu'il soit exclu de la commande publique. Enfin, nous exigeons également que la base de recrutement de ces concours-là soit élargie.
La fraude rompt l'équilibre des chances entre les candidats. Et pour Ismaël Traoré, le président de l'Association des étudiants handicapés, la peine est plus que doublée.
C'est plus qu'une double peine. C'est-à-dire le handicap, déjà, c'est un manque de chance. Maintenant, si à un certain niveau, maintenant, ceux même qui doivent travailler ne sont pas recrutés dans les règles de Dieu, ça devient assez compliqué. Pour nous, les personnes handicapées, nous n'avons pas de boulot. Nous sommes la couche la plus délaissée dans la famille. D'ailleurs, même nous sommes en train de revendiquer nos droits depuis longtemps au ministère de la fonction publique pour qu'on puisse intégrer les personnes handicapées, pour qu'on puisse accepter d'appliquer la loi concernant le quota des personnes handicapées qui représente 10% dans la loi. La loi dit qu'il faut 10% des concours de la fonction publique dédiés aux personnes handicapées, mais jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la fonction publique refuse de l'appliquer.
Sur la balance, le gouvernement burkinabé a mis le coût de la reprise et le timing de la transition. Le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, qui est un soutien du comité des jeunes, s'élève contre cet aspect financier. Son secrétaire exécutif adjoint, Sagado Nakanabo.
Qu'elle représente des milliards par rapport à l'honorabilité de la fonction publique. Si vous recrutez seulement 10 fonctionnaires pourris, ce que ça va représenter pour l'avenir de notre pays. Pour réparer cela, même s'il faut utiliser toutes les ressources du Burkina Faso, c'est mieux de le faire. Parce que si on ne fait pas ça, on va construire sur du sable. Et ça, ça ne paye pas.
Le gouvernement burkinabé promet trancher la question ce jeudi après examen en Conseil des ministres. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka pour les Maliens fête ses 2 ans au pouvoir. Qu'en pensent les opposants? Idriss Fall a contacté Moussa Seydi Diallo, secrétaire général adjoint pour la communication de l'URD, l'Union pour la République et la Démocratie, principal parti d'opposition.
2 ans Ibeka, les Maliens ne savent plus quoi dire. 2 ans Ibeka, 2 ans de scandale financier, de mauvaise gestion, 2 ans de paroles, mais aucun travail fourni. Sincèrement, même les inaugurations qui ont été faites ont été des inaugurations que l'ancien président Amadou Toumani Touré avait déjà fait comme travaux. Je me dis 2 ans de recul, sans être trop dur, mais je vous dis très sincèrement, le Mali n'est même plus visité par les présidents de la sous-région et les présidents d'autrui.
Mais avouez le contexte dans lequel Ibeka est arrivé au pouvoir, c'est un contexte de crise, mais on a l'impression que l'opposition, c'est-à-dire notamment vous, vous passez votre temps à tirer sur le président alors que le pays a besoin d'unité nationale.
2 ans de crise ne dédouane pas. C'est pas parce qu'il est venu en période de crise que ça va le dédouaner. Non, il s'est même positionné comme celui qui va gérer cette crise, comme l'homme de la situation, comme la seule personne qui était capable de gérer cette situation.
Voilà, c'était Moussa Seydi Diallo, secrétaire général adjoint pour la communication de l'URD, principal parti d'opposition au Mali. Et pour terminer, retour en RDC, Martin Kobler, le représentant spécial de l'ONU sur place, réclame la levée de l'interdiction dans le pays du film « L'homme qui répare les femmes » consacré au combat du gynécologue congolais Denis Mukwege. Monsieur Kobler estime que cette interdiction est inadmissible, a déclaré aujourd'hui Charles Bambara, chef de l'information publique de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.